France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Fanny Richer et Barthélémy Gaillard. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, la journaliste Clara Marchaud qui revient d'Ukraine nous raconte la situation dans les régions du Donbass, encore contrôlées par Kiev. Un territoire qui résiste, mais qui se vide de ses habitants. Et puis, la table ronde consacrée aujourd'hui à l'ONU qui fête cette année les 80 ans de l'adoption de la Charte des Nations Unies. Un anniversaire placé sous le signe des coupes budgétaires et des plans sociaux, alors que les États-Unis ont suspendu une grande partie de leur financement. Quel avenir pour l'ONU dans ce contexte? Nous en discuterons avec nos invités Chloé Morel, historienne, chercheuse associée à la Sorbonne, autrice de Les grands discours de l'ONU de Harry Truman à Greta Thunberg aux éditions du Croquant, et Alain Leroy, ambassadeur de France et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Une discussion co-animée comme chaque semaine avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Et pour commencer donc, place au retour de terrain. Bonjour Clara Marchaud.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous couvrez depuis plusieurs années la guerre en Ukraine. On peut vous lire notamment dans Le Figaro, Mediapart et L'Express. Vos derniers reportages nous emmènent au plus proche de la ligne de front dans le Donbass ukrainien, une région en guerre depuis 2014 et dont Kiev ne contrôle plus qu'une petite partie des oblasts de Donetsk et de Luhansk. 255 000 personnes y vivent encore malgré la proximité du front, les explosions et le harcèlement des drones. Si les Ukrainiens et Ukrainiennes que vous avez rencontrés n'ont pas vraiment prêté attention aux tractations diplomatiques qui ont eu lieu cet été en Alaska ou à Washington, ils et elles s'interrogent bien entendu sur leur avenir. Partir ou rester face à la terreur des frappes, partir ou rester si les Russes arrivent, c'est la question que se pose par exemple Tetiana qui vit à Kramatorsk. Nous sommes à 16 km du front. Tetiana a déjà été déplacée une fois il y a 10 ans. La crainte d'un nouvel exil, est-ce que c'est cela qui la retient aujourd'hui de plier bagage à nouveau ?
La plupart des gens que j'ai vus, comme Tetiana d'ailleurs, se demandent partir, mais pour aller où ? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que toute l'Ukraine est harcelée par les drones. Par exemple, rien que à Kiev, dans la capitale, on passe des nuits entières où on entend des drones toute la nuit, des explosions toute la nuit. On a l'impression d'être sur la ligne de front. C'est quelque chose qu'on voyait pas même il y a 1 an, 2 ans. Donc il y a un peu cette impression que on a nulle part où aller. Et en plus de ça, une partie de la population, c'est beaucoup des personnes âgées. La moitié de la population qui reste, c'est des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont nulle part où aller. Donc aujourd'hui, il y a un peu c'est vraiment de la survie en fait. Les gens que j'ai vus sur place survivent plus que ne vivent.
Ce que vous avez rencontré sur place sont pour la plupart dans l'impossibilité effectivement de fuir. Mais il faut raconter que depuis 3 ans, le Donbass ukrainien, qui était une région très densément peuplée, s'est littéralement vidé de sa population.
Oui, et même depuis 11 ans, en fait, depuis 2014, le Donbass était une des régions les plus riches et puis les plus peuplées d'Ukraine. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a frappé en allant sur place, hein, d'autant plus que c'est un endroit où je vais depuis 2021. En 2021, par exemple, on voyait les routes qui étaient refaites, il y avait quand même des entreprises. Là, en fait, en y allant, et je trouve par rapport à l'année dernière, à l'année d'avant, notamment à Kramatorsk, avant c'était quand même une ville qui était plutôt vivante. Là, aujourd'hui, donc il y a de plus en plus de ruines, mais en plus il y a de moins en moins de gens à l'extérieur. Après, c'est aussi parce que c'était peut-être l'été, et puis il y a un peu en ce moment et depuis début 2025 de plus en plus une tendance avec des gens qui partent pour quelques temps, qui vont partir 1 mois, 2 mois. J'ai rencontré des gens à la gare qui faisaient ça, qui partaient parce qu'en fait ils n'en pouvaient plus, parce que c'est vrai que quasiment toutes les nuits, il y a des explosions, et pour le coup, c'est pas comme Kiev, c'est une grande ville. Là, ces villes du Donbass, c'est quand même beaucoup plus petit, et du coup, c'est beaucoup plus dangereux, en fait, de rester sur place.
Oui, tout le territoire ukrainien est ciblé en permanence, mais dans cette région, dans les villes de Kramatorsk, de Sloviansk, en particulier, on est particulièrement exposé. Le 31 juillet, à 3h du matin, une bombe plane... Pardon, dans l'après-midi, une bombe planante a provoqué l'effondrement d'un immeuble. 7 morts, 11 blessés. Tetiana, la jeune femme dont on a déjà parlé, vivait juste à côté. Elle a elle-même été blessée. Elle vous dit « il n'y avait pas de militaires ici ».
Il y a des militaires partout, hein, dans le Donbass. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que il y a des militaires partout. Les militaires vivent au sein de la population. Ils peuvent pas rester en dehors des villes, sinon les villes vont être prises, quoi. Donc en fait, on sait que toutes ces frappes, il y a beaucoup de frappes en fait dans le Donbass qui touchent des infrastructures militaires, notamment aujourd'hui beaucoup des infrastructures de défense où en fait les Ukrainiens fabriquent des drones ou des armes ou réparent. En fait. Donc on sait que c'est quelque chose qui est assez souvent, mais parfois, par exemple, sur ce cas-là, le 31 juillet, c'était quand même...
un immeuble d'habitation.
Oui, c'était un immeuble d'habitation et c'était, je ne me rappelle plus exactement si c'était une bombe planante ou un missile, mais en tout cas, c'était ciblé, en fait. Ils ont utilisé une arme qui est extrêmement chère et extrêmement précise. Donc la question, c'était pourquoi frapper là, ce que m'a dit Tatiana et ce que disent parfois les autres les habitants, hein, c'est pour faire peur aux gens, pour que les gens partent, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de prendre des villes qui sont à moitié vides en fait. Enfin, c'est vraiment, ils nous font partir en fait, c'est ce que disent les gens sur place.
Alors pour ceux qui décident ou qui n'ont pas le choix et qui restent, il y a aussi la question de l'accès à l'emploi pour continuer à vivre tout simplement. Tatiana, elle avait trouvé un emploi dans une ONG, mais de manière générale, l'accès à l'emploi est compliqué. Quels sont les secteurs, les activités qui fonctionnent encore dans le Donbass ukrainien?
Il y avait encore... il y a quelques usines, mais vraiment quelques-unes, alors qu'avant, c'était des usines qui employaient des milliers de personnes. Hein. Notamment, il y a une usine d'automobile qui continue à fonctionner, une usine de pain. Mais en fait, là, une grande partie des gens travaillent dans le secteur des services et des services aux militaires. Donc, par exemple, les garages, mais aussi les cafés, les hôtels, parce que il y a de plus en plus de... Il y a beaucoup d'épouses, en fait, ou de familles qui se rendent sur place pour voir les militaires, leurs proches qui sont... quand ils ont une permission de un ou deux jours en fait. Et puis il y a encore un peu d'agriculture, mais aujourd'hui, là par exemple, rien qu'hier, je regardais une vidéo dans la région, maintenant les fermiers, enfin les agriculteurs se baladent avec des drones et puis écrivent sur leur tracteur, pas sur leur tracteur mais sur leur véhicule, écrivent grains ou écrivent quelque chose pour marquer, pour montrer qu'ils ne sont pas des cibles, parce qu'en fait les drones touchent tout le monde, et ça c'est et encore à Kramatorsk, à Slaviansk, qu'on peut encore vivre. Autant dans les villes où je suis allée un peu plus près, comme à Konstantinivka ou même à Dobropilia, maintenant c'est pas une vie, quoi. Enfin, c'est ce que me disent les gens, c'est qu'on peut pas vivre en fait là-bas, c'est tellement dangereux tout le temps, tout tombe en fait, tout tombe tout le temps, c'est comme si le ciel vous tombait sur la tête, me disent les gens, hein.
Par la force ou par la négociation, la Russie aimerait récupérer cette partie du Donbass ukrainien qui lui manque, entre guillemets, puisqu'elle occupe la majeure partie des deux régions de Donetsk et de Louhansk. Que pensent les habitants de cette perspective, pour ceux qui veulent bien vous confier ce qu'ils en pensent, partir ou rester si les Russes arrivent?
C'est très difficile en fait dans le Donbass, bon un peu partout, hein, mais dans le Donbass en particulier, de comprendre en fait ce que veulent vraiment les habitants, même en parlant la langue, il y a un peu dans cette région une peur de... c'est une région qui a aussi changé en partie de main. Il y a des régions, enfin il y a certains endroits comme à Slaviansk qui avait déjà été pris en 2014, qui a été sous occupation pendant quelques mois. Donc en fait, les gens ont un peu peur de donner leur avis, quoi. Et pourtant, c'est quand même, bon, c'est quand même, l'Ukraine, c'est quand même un pays démocratique, donc on arrive quand même à recueillir un peu des ce que les habitants pensent. Donc on dirait que, on a l'impression qu'il y a une majorité des gens qui, en tout cas, ne veulent pas donner le Donbass, ça c'est sûr, parce qu'ils ont l'impression que le reste, qu'en fait, c'est juste un tremplin pour une nouvelle attaque. C'est pas quelque chose qui va, même si, par exemple, la seule chose qu'ils veulent vraiment, c'est qu'ils sont un peu plus prêts à faire des concessions pour avoir un gel de la ligne de front, mais seulement si ça garantit en fait qu'il n'y aura pas une attaque dans quelques années. Et ça, pour le coup, dans tout le reste de l'Ukraine, c'est aussi comme ça. Après, effectivement, il y a une minorité de gens qui sont appelés péjorativement des jdounis, ce qui est un peu plus complexe que ça, mais en
ce
tout cas...
Ce
qui signifie les gens qui attendent. Donc,
Les Russes.
Qui attendent les Russes, en fait. Donc, effectivement, moi, je trouve que je voyais beaucoup plus de gens qui étaient plus favorables à Moscou avant 2022. Ça, c'est clair. Avant, c'était beaucoup plus simple de trouver des gens comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a, mais c'est un peu des gens qui sont forcés, en fait. Enfin, aussi des gens qui veulent juste rester dans leur maison, qui ont que leur maison, en fait, c'est leur seule propriété, leur maison, leur appartement. Et du coup, ils se disent, on préfère rester parce qu'au moins ici, on ne paye pas de loyer, on peut vivre dans notre jardin.
Je ne veux pas que l'armée ukrainienne se retire, mais si les Russes arrivent, je resterai. C'est ma maison, mon jardin, ma terre. C'est Ina, qui a 70 ans, ouvrière à la retraite, qui vous confie cela. Clara Marchaud, près du front, vous vous êtes rendue également, vous décrivez une armée paralysée sur une ligne de front qui ne bouge plus beaucoup, mais où les positions restent très difficiles à tenir. Les déplacements pour les soldats sont de plus en plus risqués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, alors c'est difficile parce qu'on voit sur une carte, on voit en fait ce qui est rouge et puis qui avance en fait sur une carte les parties qui sont prises par les Russes. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, il y a toute une zone proche de la ligne de front qui va jusqu'à 15 km, jusqu'à même 20 km, où en fait les drones peuvent attaquer. C'est-à-dire que ça rend tout extrêmement compliqué, pas seulement pour les soldats d'ailleurs, parce que les voitures civiles sont aussi ciblées, des médecins, des ambulances. En fait, tout ce qui bouge, même nous en tant que journalistes, ça rend très compliqué nos déplacements. Donc ça peut être différents types de drones. Et c'est vrai que pour l'armée, autant il y a par exemple un an, deux ans, le problème c'était le manque de munitions par exemple, ou alors la logistique, le fait d'avancer, de devoir aller ravitailler des positions. Aujourd'hui, c'est toujours un problème parce que justement il y a ces drones-là, mais il y a de plus en plus de robots. En fait, c'est ce qu'on appelle des drones terrestres, des systèmes robotisés qui amènent des vivres sur les positions à l'avant. Donc, en fait, on a un peu de l'infanterie à l'avant, c'est-à-dire vraiment à un kilomètre, même pas des Russes, qui attendent dans des trous, c'est-à-dire vraiment dans des trous creusés dans le sol. C'est même plus des tranchées, en fait, et puis qui essayent de tenir comme ça et qui sont ravitaillés par drone ou par, avec des drones. En fait, on leur envoie des vivres. Des médicaments, par exemple, un médecin me disait qu'il avait eu quelqu'un qui avait été amputé de l'orteil, enfin, il avait perdu son orteil avec une petite mine, et en fait, il est resté coincé, le soldat est resté coincé 127 jours sur les positions, et donc ils leur ont envoyé de la pommade antibiotique par drone, et finalement quand il a réussi à enfin sortir de la position, parce qu'ils attendaient un jour où il y ait du brouillard, ou bien un jour où il y ait vraiment une très mauvaise météo pour pouvoir sortir, que les drones puissent pas voler, en fait il avait même plus besoin de soins, quoi. Donc c'est vraiment, ça complique énormément. En fait, ça devient être dans l'infanterie, vraiment, hein, ça devient du suicide, quoi. Enfin, c'est ce qui m'a choqué aussi, c'est que les gens, et c'était déjà le cas, hein, c'était déjà dangereux d'être dans l'infanterie, mais en fait, là, il y a tellement de drones qui volent partout, toute la zone, dans une zone qui s'éloigne de plus en plus, hein, parce qu'avant, cette zone, c'était 5 km, quoi, peut-être. Maintenant, aujourd'hui, c'est 15, 20. Donc en fait, c'est toute une zone où vous pouvez pas aller, où vous savez qu'en fait vous êtes tout le temps surveillé, et du coup pour ravitailler, ça devient très compliqué, quoi. Et les Russes ont le même problème de l'autre côté, hein.
Vous décrivez cet hôpital de campagne à l'arrière du front qui est quasiment vide parce que l'évacuation des blessés du front justement est devenue quasiment impossible. Il y a quelques temps encore, elle pouvait se faire au crépuscule ou au lever du soleil quand la visibilité était réduite pour les drones, mais désormais les drones sont équipés de vision nocturne. Et donc cette évacuation est impossible. Il faut aussi redire à quel point les blessés sont des cibles.
Oui, et d'ailleurs en fait cet hôpital de campagne, ce qu'on appelle des points de stabilisation, il n'est pas du tout en arrière de la ligne de front, mais je ne peux pas dire où est-ce qu'il est, mais c'est vrai qu'en fait non, il se trouve à quelques kilomètres de la ligne de front. Donc c'est le premier endroit où une fois qu'on sort l'infanterie, on sort des blessés, on les amène à cet endroit-là. Mais en fait, ce déplacement, en fait, ce transfert est aujourd'hui extrêmement compliqué. Donc, on a des blessés qui meurent faute de soins parce que on peut pas, parce qu'ils ont une amputation, par exemple, et ils peuvent pas être stabilisés, en fait. Ils peuvent pas être emmenés. Donc, effectivement, aujourd'hui, il commence à y avoir des robots, encore une fois, qui amènent les blessés tout seul, c'est-à-dire qui les portent sur une espèce de civière avec sur des roues, quoi. Mais ça, c'est vraiment, on est au début, hein. On est vraiment au début de la guerre des robots, mais je pense que dans un an, ce sera beaucoup plus commun sur la ligne de front et ça risque de changer vraiment la donne.
À défaut de robots, il faut risquer la vie de 5 hommes pour sauver un blessé, vous explique un soldat. Clara Marchaud, on parlait tout à l'heure des tractations diplomatiques qui ont lieu en Alaska, à Washington et dans tant d'autres rencontres sur l'avenir de l'Ukraine, sur l'avenir notamment des territoires occupés qui sont le point d'achoppement majeur d'éventuelles négociations. Or, on sait bien peu de choses sur ce qui se passe dans ces territoires occupés, mais vous tentez de documenter la vie de celles et ceux qui vivent sous administration russe, la russification de la vie quotidienne, la langue, la monnaie, les cartes téléphoniques, les passeports, se poursuit-elle, s'accélère-t-elle d'après les informations dont vous disposez ?
Oui, c'était déjà le cas, ça fait plusieurs années maintenant que j'essaye de documenter ce qui se passe dans les territoires occupés, et en fait, tous les mois, il y a des nouvelles règles qui sont créées par les Russes pour russifier les territoires. Mais ça allait à un point où autant changer les cartes SIM, changer les permis de conduire, par exemple, ou bien changer l'heure. L'heure est passée à l'heure de Moscou dans ces territoires-là. Donc, on est à un point c'est un peu des anecdotes, hein. Mais au-delà de ça, c'est par exemple aujourd'hui, mes sources me disent. Là-bas, on ne peut plus vivre sans passeport russe. On ne peut plus aller à l'hôpital. Les ambulances refusent de venir si vous n'avez pas un passeport russe. Vous pouvez perdre votre appartement si vous refusez de le réenregistrer avec un passeport russe, dans le registre foncier russe. Et là, maintenant, la nouvelle règle, en fait, qui a été déjà mise en place en 2023, hein, mais qui aujourd'hui arrive à échéance, Poutine avait signé un décret qui dit que les citoyens ukrainiens dans les territoires occupés seront considérés comme des étrangers et pourront être expulsables à partir du 10 septembre, c'est-à-dire là, il y a quelques jours. Et on voit que pour eux, il y a vraiment les Russes essayent vraiment de mettre en place cette passeportisation, de distribuer des passeports pour ensuite, ce que me disent par exemple des juristes, pour ensuite dans quelques années, ou même déjà là, dire regardez, ce sont des gens russes, ils ont pris d'eux-mêmes les passeports. Sauf qu'en fait, prendre eux-mêmes les passeports, ils le prennent pour garder leur maison, pour pouvoir se soigner, quoi, en fait.
Et c'est ce que vous raconte par exemple Ior, c'est un jeune homme que vous rencontrez à Kiev parce qu'il a fui justement les territoires occupés de peur d'être enrôlé dans l'armée. Il vous raconte les pressions subies pour prendre ce passeport. Il vous raconte surtout qu'au moment où il a cédé et au moment de récupérer ce passeport, c'est bien plus qu'une démarche administrative. C'est un moment assez solennel. Il doit prêter serment, peut-être pour certains chanter l'hymne national russe.
Oui, c'est. Il y avait des gens qui m'ont très très mal vécu, hein, qui me racontaient. La personne qui m'a raconté comment elle a dû chanter l'hymne russe, elle l'avait très très mal vécu. Là, par exemple. Igor, il est parti parce qu'en fait, une fois que vous avez le passeport russe, vous êtes mobilisable dans l'armée russe. Et aujourd'hui, et j'enquête sur ça justement, hein, il y a une campagne de mobilisation au sein des territoires occupés des Ukrainiens. Tout ça, là, tout ce que je vous raconte, en fait, c'est des crimes de guerre. Hein. Certains peuvent être des crimes contre l'humanité. Et j'ai l'impression, tous les jours, en enquêtant, en continuant d'enquêter, de me demander, mais jusqu'où ça pourra aller, quoi, en fait. Et aujourd'hui, on commence à avoir ces expulsions, même si le délai du 10 septembre, c'était juste il y a quelques jours. Hein, on a déjà des gens qui sont expulsés des territoires occupés, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans une voiture et puis qu'ils sont amenés en Géorgie, rencontrer une femme comme ça, ils sont emmenés à la frontière, et puis avec un papier qui leur dit, vous êtes interdit de territoire de Russie pour 30 ans.
des personnes qui sont considérées comme étrangères dans le village où elles sont nées et où elles vivent. Et puis il y a aussi des Ukrainiens comme Olena qui font le choix de retourner dans les territoires pour enregistrer leurs ses appartements, sa maison, sous la loi russe, sous risque de perdre ses logements. On ne peut pas développer davantage. J'invite les auditeurs, les auditrices à lire la suite dans vos reportages. Merci infiniment, Clara Marchaud, vos reportages en Ukraine et dans le Donbass ukrainien et sur les habitants des territoires occupés sont à lire sur les sites de Mediapart, du Figaro et de l'Express. On fera des liens sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.